Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h07, de retour dans les grandes gueules du sport. C'est le samedi, le dimanche de 9h. Hein. Notez bien ce nouvel horaire, 9h midi, avec ce matin Marion Bartoli, Sarah Pitkowski, Pascal Duprat, Christophe Cessieu. 11h45. C'est votre moment, les auditeurs. Vous êtes aussi des grandes gueules. Vous n'êtes pas d'accord avec une grande gueule dans le studio RMC. Eh bien, c'est très simple. Vous composez le 32-16 et vous venez lui dire en face. Ce sera donc à 11h45. 11h30, le débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre. Alors, quel est le débat caché du jour selon vous? Je vais aller voir qui. Sarah, t'as une idée?
J'en ai absolument aucune idée. La fin, je suis à sec complet.
T'es dans le noir?
Bah, j'ai l'impression qu'on a fait quand même pas mal le tour, donc je sais pas ce que tu vas nous sortir de derrière les fagots.
Ok, Christophe?
Ouais, moi je joue plus avec toi.
Oh!
Je joue pas avec Christophe Grognon.
Bah, moi j'ai une idée, toi, pour sauver ton truc.
Merci Pascal. Voilà.
Donc moi je vois bien, mais sans grande conviction, hein, le duel Graille-Codorniou avec les révélations qui ont été faites.
Oui, c'est pas...
sur Codorniou Rugby à la présidence Codorniou, pardon. Non, petit lapsus. Non, mais ça peut arriver de temps en temps. En plus, c'est sympa.
Qui c'est, hein,
ah, tu sais pas qui c'est.
Non, mais il me prend pour un bonheur.
À la présidence, la lutte pour la présidence.
Je sais très bien qui sont ces deux personnes.
Donc j'ai l'impression à tes yeux que c'est pas ça.
Mais très bien, je connais parfaitement le cyclisme, je sais très bien qui sont à la tête de cette fédération et qui se disputent justement pour passer au badminton. Attends, je connais mes dossiers quand même. Marion, c'est quoi le débat caché?
Écoute, je me disais qu'éventuellement, peut-être pour prolonger le débat du fantastique tennis français, on parlerait de la Coupe Davis, mais j'ai l'impression que c'est dans le zapping, alors je suis un peu perdu.
Eh non, mais il n'y a plus de zapping.
Non, mais on ne peut pas parler de la Coupe Davis, il n'y a rien.
Ah non, non,
de toute façon,
on sauvait l'honneur.
Beaucoup à dire.
Je pense que si quelqu'un me le trouvait, je pouvais lui offrir une voiture. Je n'ai pas les finances, mais je pouvais y aller parce que c'est introuvable. Voilà.
C'est vrai.
Et ce sera à partir de 11h30. Je vais décrocher tout de même, hein, parce que c'est le moment de vous inscrire pour tenter de remporter le tout nouvel iPhone 16. Vous envoyez code dès maintenant au 732-16. Code au 732-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Il est 11h10. Vous avez jusqu'à 11h15. Alors Voltaire a dit un jour, le doute est un état mental désagréable, mais la certitude est ridicule.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Venez, on va voir un petit peu, on va voir qui va gagner l'épreuve de force.
Ne répondons pas aux provocations des gonzesses.
Les Rochelais qui ont pris deux cartons rouges.
Tant que je suis détesté à ce rythme-là, c'est qu'on va peut-être empêcher la Rochelle une paire de fois de gagner encore.
Provocation à deux roues.
Montée de Saint-Denis, Tabac.
L'erreur de
Tabac qui est passé.
Voilà, oh, Il a crucifié la Rochelle.
Je m'en fucking fous d'adversaire.
Ce qui est sûr, c'est que je vais annuler mon compromis de vente à l'île de Ré.
39-23 pour le Stade Toulousain, 5 essais. King Horn, doublé de Malia, Chocobarès et Lebel pour le dernier contre deux essais de Latou et Aldrip pour les Rochelais.
Il a marché. Il a marché à fond, le gars.
C'est ma direction. Ah oui, il a marché à fond, vous allez voir, ça a encore marché cette semaine. Comme on se retrouve ce soir, le Stade Rochelais reçoit La Rochelle pour clore cette deuxième journée du top 14. Ce sera à 21h05. Les deux meilleures équipes de la dernière décennie visent évidemment le titre à la fin de la saison avec... clairement, hein, un avantage psychologique pour les Toulousains, souffre-douleur des Rochelais ces dernières années. Sur les 6 dernières confrontations à élimination directe, 6 victoires des Toulousains. 2019, 2021, 2022, 2023 et la dernière en date en 2024, c'était il y a 3 mois. En demi-finale, Toulouse-La Rochelle, une affiche qui sent la poudre alimentée par la guéguerre que se livrent les deux coachs Mola et O'Gara. La musique qui fout les jetons est cette question. Les Toulousains sont-ils rentrés dans la tête des Rochelais, qui leur ont mangé le cerveau, oui ou non? Sarah Pitkowski.
Bah, en termes de statistiques, je crois que là, tu peux difficilement dire autrement, oui.
Ok,
oui,
c'est oui. Oui. Pascal Duprat.
Oui.
C'est oui. Christophe Cessieu.
Oui.
Marion Bartoli.
J'ai bien peur que oui.
Ok, il y a d'autres... évidemment, question à se poser sur ce grignotage comme ça de cerveau. Avant de débattre, on va retrouver la voix du rugby sur RMC, c'est Wilfried Templier. Salut Wilfried.
Salut tout le monde.
Je le disais, et c'est vrai que cette semaine, comme souvent, il a été question de provocation et de complexe.
Ouais, alors on va vous faire ça, pardon, de manière chronologique pour comprendre cette mayonnaise.
Ah, avant de comprendre
mayonnaise,
la
pas pris.
Mayonnaise, il va falloir qu'on batte okay. tranquillement les œufs.
C'est ce que j'allais dire. L'huile n'a pas coulé, on a oublié de rajouter la moutarde.
Vous avez un petit peu faim, mais la mayonnaise va tourner chocolat. On va retrouver Wilfried Templier dans quelques instants et vous allez avoir d'autres éléments pour débattre. Mais on peut commencer ce débat et le 32-16 avec vous, supporter toulousain, supporter rochelais. Les Toulousains sont-ils rentrés dans la tête des Rochelais? Christophe Cessieux.
Comme le disait Sarah, en termes statistiques, il n'y a pas photo. Je me suis amusé à remonter jusqu'à 2010, la remontée de La Rochelle en top 14. Les deux clubs se sont affrontés à 30 reprises. 21 victoires pour Toulouse, 8 pour La Rochelle et un match nul. Et parmi ces 8 victoires rochelaises, aucune n'a été obtenue dans un match couperet, dans un match clé, dans une demi-finale, une finale ou un match de barrage. À chaque fois que La Rochelle a gagné, c'était en saison régulière, jamais quand ça compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils pourraient très bien battre Toulouse. Et bon, même si évidemment ça se joue à Toulouse, donc je pense que les Toulousains ne vont pas se laisser faire, mais ils en ont rien à faire finalement de perdre contre La Rochelle en saison régulière. Ce qui leur importe, c'est de les taper au moment où ça compte. Et là, on a l'impression que les Rochelais, quand ils arrivent dans ces moments-là, dans ces matchs-là, se liquéfient, elles n'y arrivent plus.
Je pense que le paroxysme de ça, c'est la finale du top 14 en 2023.
Alors la victoire tendait les bras. On était à 2 minutes de la fin du match. Ils avaient 4 points d'avance. Et là, Ntama qui réussit un exploit incroyable.
Tu refais 10 fois le scénario, La Rochelle gagne.
Les copains, je reprends la main parce qu'on a retrouvé Wilfried Templier. Il a remis le tablier pour la mayonnaise, parce que forcément ça tâche. Vas-y Wilfried.
Voilà, bon allez, on y revient. Dimanche dernier, aux alentours 19h, le Stade Rochelais vient de battre Toulon. Et donc les regards se tournent déjà vers le déplacement à Toulouse 7 jours plus tard. Et le manager, Ronan O'Gara, il demande en quelque sorte à ses joueurs de se regarder dans un miroir.
Maintenant, ils ne sont pas du tout concernés par nous. Ils sont meilleurs que nous. Est-ce qu'on est complexe avec Toulouse ou est-ce que certains dans le groupe ont un complexe contre Toulouse ou qu'est-ce que vous pensez? Moi, je suis irlandaise, j'avais pas ça. C'est une équipe qui est historique, mais comme beaucoup des autres, mais avec notre record contre eux, peut-être c'est une bête noire. So, si on est déjà battu avant d'aller, mais on doit accepter ça et travailler et trouver une solution pour sortir et être plus performant que d'habitude là-bas.
Leur record, c'est donc, vous l'avez dit, 6 éliminations en 6 matchs de phase finale en 6 saisons. Et donc une rivalité qui monte. 23h ce même dimanche, le Stade Toulousain vient de s'imposer à Vannes. Et Hugo Mola est interrogé sur tout autre chose. La suspension de son collègue Vanté d'en face, Jean-Noël Spitzer. L'occasion pour lui de mettre une pièce, comme on dit.
Y a entraîneur et entraîneur. Noël est un entraîneur qui compte. Il y en a certains endroits, je pense qu'il va falloir faire du bien à l'équipe qui se fout dans la tribune. Mais eux, force est de reconnaître qu'il a dû manquer ce soir. Il a dû manquer plein. Mais vous avez qu'à regarder ce qui s'est passé aujourd'hui, où c'est pas compliqué.
Voilà, vous avez des noms, il était relancé par des confrères, hein. Mais il n'a pas cité O'Gara, mais c'était bien sûr lui qui était visé parce que l'après-midi, pendant La Rochelle-Toulon, l'Irlandais, il a eu un accrochage avec le Toulonnais Gabin Villière que l'Irlandais avait invectivé, justement. Mola s'est donc invité dans le débat et a trouvé l'occasion de lancer le match. C'est quelque chose de récurrent entre les deux hommes depuis des mois, hein. Mais est-ce que c'est contagieux autour d'eux? C'est ce qu'il faut savoir. Dans ce décompte avant le match, on est maintenant en fin de semaine et voici le regard de l'arrière toulousain Thomas Ramos.
Nous, personnellement, ça peut nous faire rire de temps en temps. C'est leur façon de fonctionner, certainement, à tous les deux. Personnellement, quand je dis personnellement, c'est à l'intérieur du groupe, on n'en parle pas non plus des tonnes avec Hugo. Donc voilà, mais comme on dit, qui aime bien châtie bien. Donc peut-être qu'à la fin de leur carrière, ils se retrouveront en vacances et partiront une semaine ensemble. Ils auront de quoi se raconter de belles choses. Mais en tout cas, non, sans commentaire.
La sortie de Mola fait moins sourire l'adjoint de O'Gara, l'entraîneur des Avants, Romain Carmignani. C'était vendredi dans l'après-midi.
Je trouve que c'est nul en fait. Après c'est normal, hein, c'est le jeu, c'est le champion contre le challenger. Nous à chaque fois que Mola, c'est notre club quoi. Moi c'est mon club, le Stade Rochelais. Je n'aime pas quand il y a quelqu'un qui manque du respect ou qui prend notre club pour nous prendre pour des cons quoi en fait, clairement. Ce qu'il a dit dimanche, moi je trouve ça nul en fait.
Voilà, lui répondre, est-ce déjà rentré dans son jeu ou ce sentiment des Rochelais est-il légitime? On verra ce soir lorsque tout ce petit monde va se retrouver.
Merci beaucoup Wilfried Templier d'avoir fait monter la mayonnaise. Le 32-16 évidemment pour pas participer à ce débat et tu restes avec nous. Pascal, je te voyais réagir à ce qui s'est passé cette semaine.
Ouais, parce que j'ai qu'une hâte, c'est de regarder le match. Parce que je veux voir ce que ça va donner. Parce que en fait, ils ont fait monter la mayonnaise, comme l'a dit Wilfried. Ils l'ont très bien fait monter. Cela dit, moi, je voudrais édulcorer les propos parce que le Stade Toulousain terrasse tout le monde. Oui, donc, c'est ça.
Il n'est pas la bête noire, même si c'est davantage
récurrent avec La Rochelle, parce que c'est, allez, sans vouloir faire offense à personne, ces dernières années, c'est le challenger du Stade Toulousain. Mais cela dit,
oui, bon, champion d'Europe en 2022, 2023 aussi.
Ils sont presque, en tout cas pour ce qui est du top 14, presque hors concours par rapport aux Toulousains.
Mais même en Coupe d'Europe, quand ils jouent contre Toulouse, ils perdent les Rochelais.
Et en fait, moi, j'ai juste envie de voir s'il va y avoir 2-3 gifs de distribuer. Voilà, je vous la fais courte, mais voilà ce que j'attends. Je vais regarder ça.
Je vais voir si ça va saigner.
Si jamais il y a 2-3 images dans les couloirs, je regarde aussi.
Pour avoir écouté la conférence
des Français, une telle adversité et un tel antagonisme entre les deux. On a besoin de ça. On parlait tout à l'heure de l'OM et du Paris Saint-Germain. Eh ben, c'est la même chose. Il faut que ça existe aussi en rugby. Il faut qu'il y ait un champion et un challenger qui vient lui mordre les mollets. Ça ne fait que du bien au rugby.
C'est vrai, mais on a l'impression que quand Toulouse met une pièce dans la machine, on sent que ça déstabilise les Rochelais. Je parle sous couvert et sous ton contrôle aussi, le dernier match, la demi-finale du top 14 en 2024. Ils ont terminé avec deux expulsés parce qu'on sent qu'il y a ce trop-plein de frustration. Est-ce que c'est un peu comme ça que vous le lisez?
Oui, mais je dirais que cette rivalité, elle a pris de l'ampleur effectivement sur le terrain. Elle a pris de l'ampleur donc par ces fameux résultats sportifs qui sont toujours en faveur de Toulouse ces dernières années. Parce qu'il y a les liens entre ces deux effectifs. Et puis la rivalité, elle est aussi alimentée parce qu'il y a les deux entraîneurs qui s'envoient des petits pics par médias interposés. Et donc en fait, c'est ça qui donne le sel de cette rivalité. Après, quand t'as une bête noire, l'ascendant psychologique, il est quand même vachement dur à inverser. Alors je sais pas, en termes de sport co, en sport individuel, quand t'as une bête noire, c'est dur.
Mais est-ce que tu t'es fait grignoter le cerveau par quelqu'un?
Bien sûr, évidemment. Quand t'as une bête noire, tu rentres sur le court, tu dis mais par où je commence? Et pour peu que les premiers jeux se déroulent toujours de la même situation, t'as l'impression que le sac que t'as sur les épaules, il est encore plus lourd. Mais
tu joues avec ton sac aussi, c'est pour ça.
En sport co, c'est con ce que tu dis là, quand même. C'est très très con ce que tu dis.
Moi, je me rends compte d'une chose, c'est que dans ma modeste carrière, la bête noire, c'est mon équipe. Donc, imaginez comment je suis en souffrance.
Ouais, mais est-ce que quand tu fais un sport co, est-ce que inverser le cours d'une rivalité, est-ce que c'est pas plus facile? Parce que finalement, quand tu as un effectif de 20, tu en as toujours qui vont être.
Et puis des choses qui changent aussi.
Positif,
mais là où le rôle de l'entraîneur est très très important, et j'ai apprécié ce qu'a dit O'Gara, parce que O'Gara, il fait quand même un feedback sur toutes les défaites dernières, et il dit c'est ce qu'il croit fermement, c'est surtout l'indiscipline qui nous a fait perdre. Il attend ses joueurs à ce niveau-là.
La dernière demi-finale, c'est clairement l'indiscipline qui les a fait perdre. Ils tenaient vraiment le Stade Toulousain entre leurs pattes, et puis ils sont partis en brioche. Mais c'est peut-être aussi le fait que quand tu rentres sur le terrain, tu te dis je vais à tout prix les battre, cette fois-ci je vais les battre, du coup tu peux un peu perdre ta lucidité, et c'est ce qui s'est passé lors
de trop dans l'émotion.
Les Toulousains, ils arrivent sûrs de leur fête. Je veux dire, ils gagnent toutes les finales qu'ils disputent depuis combien de temps, Wilfried? Ils n'ont plus perdu une finale, les Toulousains? Je ne me rappelle plus exactement. On l'a évoqué régulièrement quand on commente les matchs. Mais c'est un truc de dingue. La stade est complètement dingue. Donc eux, ils arrivent, ils sont sereins. Et évidemment,
c'est 23 sur 30, ouais, dans leur histoire. 23 finales gagnées sur 30.
Mais c'est surtout qu'ils ont été systématiquement éliminés par Toulouse en phase finale du championnat depuis la saison 2018-2019. Donc il y a un espèce, et tu l'as dit d'ailleurs, Christophe, il y a un passif sur les gros matchs qui est quand même énorme. Et on a l'impression que même lorsque ça leur tend les bras, il va y avoir un retournement situation où trop d'envie, trop d'agressivité qui ont engendré les deux cartons rouges la dernière fois, qui va malheureusement leur faire les faire déraper sur la fin et les empêcher de gagner. Donc à la fois il y a certainement quand même j'ai l'impression un petit peu de complexe d'infériorité lorsqu'ils jouent Toulouse. Tu vas me dire que beaucoup d'équipes en France ont ce complexe d'infériorité, mais il y a aussi une espèce de malchance où t'as l'impression que ça tourne jamais en leur faveur, même quand la victoire leur tend les bras. Parce qu'encore une fois, ils ont été quand même champions d'Europe 2022 et 2023.
Wilfried,
il y a huit finales de suite gagnées par le Stade Toulousain, c'est 2006. Ouais,
le Stade Rochelet est accompagné sur le plan psychologique, où il y a un travail qui est fait?
Non, mais ils l'ont travaillé. Alors, on l'avait vu avec Romain Asselin, notre correspondant à La Rochelle. Hein, ils ont travaillé en ce début de semaine à pousser les joueurs justement à l'entraînement dans leur retranchement pour travailler ce côté discipline, à les mettre vraiment dans le rouge. Et je sais pas si O'Gara leur crie dessus au même moment quand ils les mettent dans le rouge, mais ils ont essayé de travailler ça. Est-ce qu'on peut travailler ça en entraînement, que ce soit aussi efficace qu'en match où les conditions sont jamais forcément les mêmes, mais en tout cas ils essayent de bosser.
Hier, dernière séance d'entraînement, ils ont mis le portrait de Hugo Mola sur chaque sparring partner. Ils sont préparés comme ça.
Après, Wilfried, ce match-là, c'est la deuxième journée du top 14.
Grégory Aldrit l'a dit. Il l'a dit. Je préfère gagner la finale contre eux que Ernest Vallon dimanche. Il l'a dit cette semaine.
Pour l'instant, tu gagnes ni l'une ni l'autre.
Mais pour remonter ce petit aspect psychologique où ils sont loin derrière, Toulouse est invaincu depuis 2 ans et demi à domicile. Hein.
Il y a la formule de toute série, plus elle est longue, plus elle arrive à une fin. Et s'il y en a un qui peut le faire, est-ce que c'est pas le Stade Rochelet au final?
Plus les séries s'étendent, plus on est proche de la fin. Ouais, ça c'est sûr.
Mais plus le temps avance, et plus Toulouse semble fort.
C'est les Gémeaux toulousaines. Enfonçons
tous des portes ouvertes. Allez, c'est ça ce matin.
Là, Christophe, il a décidé de casser l'ambiance.
Toulouse cette année. La Rochelle a fait une superbe avant-saison. Mais franchement, je pense qu'ils sont imbattables, les Toulousains.
Ouais. Et puis, vous savez ce qu'on dit.
Ça me rend triste parce que j'aimerais bien que La Rochelle en gagne une. Et Wilfried aussi, même s'il n'a pas le droit de le dire.
Il n'a
pas le droit parce qu'il habite à Toulouse, mais il est Rochelais.
Ne le mets pas en difficulté.
Mais après, je le vois, je le récupère, il est au fond du trou. Le jour de la finale, il était, mais mon pauvre Wilfried, j'étais obligé de lui faire presque du bouche à bouche pour le remettre en état.
Et c'est toi qui lui as demandé d'en faire. Tout de même, vous dire, on va accueillir Jonathan qui est furax ce matin, supporter Rochelais, mais juste vous dire que Ramos et Aldrit étaient donc en conférence de presse et que les deux ont dit, mais ça, les bêtes noires, c'est les trucs de journalistes, on n'en pense pas et tout ça. Oui. Et c'est pour ça qu'on vous pose la question de savoir si les Toulousains sont grignotés le cerveau des Rochelais. Jonathan, supporter de La Rochelle, il va nous mettre des mines. Salut Jonathan.
Bonjour à tous. Déjà, je me permets de faire un petit bisou à Wilfried parce que je le connais et pour tout vous dire, je suis en train de me promener à côté du parc de Niol. Donc ça doit lui rappeler des souvenirs.
C'est la maison.
C'est ça.
C'est la maison, Wilfried.
Oui, c'est la maison.
Toi, t'as
regardé
ça.
Regarde, il est pudique. Mais oui, c'est ta maison, Wilfried. Tu peux le dire.
Toi, Wilfried.
Ah, c'est bon, je suis rhabillé pour l'hiver avec toi, Christophe. Je suis toujours content de te croiser le dimanche matin, Christophe.
Wilfried, pardon. Toi, c'est pas le parc de Niol où tu habites.
Non, ça, c'est que l'été. C'est que l'été, là. L'été est fini.
Vas-y, Jonathan.
Non, mais en fait, ce que je vois depuis quelques années, j'adore le rugby, mais je suis surtout basket à la base. Mais moi, je pense surtout qu'on n'a pas de chance parce que les Toulousains sont un peu arbitrés comme l'étaient les Bulls dans les années 90. Et voilà, je pense qu'ils ont quand même beaucoup de décisions en leur faveur et très rarement sur les 5-6 dernières années, on a la possibilité de jouer à égalité tout le long du match, parce qu'il y a toujours un carton rouge, un fait de jeu, une mauvaise décision arbitrale. Moi, je trouve ça un peu dommage que ça casse le jeu comme ça. Et je pense que si on avait les mêmes possibilités et qu'il n'y ait pas de fait de jeu, je pense qu'il y aurait vraiment moyen de pouvoir faire quelque chose.
Ouais. Ok, donc on se plaint de l'arbitre du côté Rochelais sur ces matchs comme ça, souvent tendus. Bah, c'est de bonne guerre. On peut le dire aussi. Mais juste, Pascal, toi, est-ce que tu as déjà eu des bêtes noires? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de sentir, ou même que tu aies un ascendant psychologique sur une équipe,
en Ligue 1, en Ligue 2?
Non, mais, ou un coach, tu sens que bon, c'est épidermique, quoi.
Non, véritablement épidermique, non. J'aime pas tous mes collègues coachs, qu'on soit tous d'accord, mais j'ai pas d'aversion.
Il y a eu quelques prises de bec avec certains d'entre eux.
Après, c'est la personnalité des uns et des autres.
Hervé Renard, c'est ton pote ou non, là? Oui, vous êtes savoyards tous les deux.
Aucun souci. Non, d'accord. Mais si vous voulez, quelquefois, les personnalités font que, on s'insupporte sur le terrain. On a deux visages. Je sais pas si ça vous arrive, vous, d'avoir toujours le même visage, mais moi, j'ai deux visages.
T'as des visages sur le banc, chez les journalistes, dans la vie,
tout simplement.
Chez les journalistes, en revanche.
Oui, ça, j'en ai beaucoup, mais. et ça, encore une fois, quelquefois, j'ai prêté le flanc, je l'ai bien mérité. Donc, c'est ainsi fait. Mais des équipes, comment dire, que j'ai décrites comme étant mes bêtes noires, non. C'est aussi parce que je perds souvent. Oui, tu as bien fait de le souligner, Marion.
Merci, Jonathan, d'avoir composé le 32-16.
Bon, bah là, match, en plus, avec l'héros du gazon, tu vas pas gagner souvent non plus. Hein.
Et donc, on peut souhaiter à Jonathan, qu'est-ce qu'on lui souhaite? Une bonne raclée ce soir face à Toulouse?
Non, non, ça va le faire.
Et à Wilfried, une bonne raclette. Ah non, c'est quoi le nom?
Ah, bon, on va mettre Wilfried pour arbitrer. Ça, c'est une bonne idée, ça.
C'est moi la raclette.
Allez, 21h05, la rencontre ce soir, ça va suivre sur RMC, évidemment. Merci, Wilfried Templier, d'avoir été avec nous. C'est toi qui commente la rencontre ce soir entre le Stade Toulousain et La Rochelle. On se retrouve dans quelques instants pour le débat caché. Introuvable, hein, ce débat caché ce matin, je dois bien le dire. Parce que je vais vous proposer autre chose. Voilà, c'est autre chose que je vous propose ce matin. Ah, c'est du sport, hein. On va pas savoir comment on fait du fromage fondu. Hein. Non, on va faire du sport. Mais c'est autre chose. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h31 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Pascal Duprat, Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Marion Bartoli. Dans 10 minutes, c'est à vous de jouer. Les auditeurs, les GG, vous composez le 32-16, vous n'êtes pas d'accord avec une GG dans l'Assemblée, vous venez lui dire directement, nous avons évoqué le Paris Saint-Germain et Marseille, est-ce que c'est le retour de la rivalité sportive? On a parlé de cette fête nationale du sport, pour ou contre, et Sarah était farouchement contre. On a parlé de la nouvelle stratégie de McLaren ou encore de Toulouse-La Rochelle. Bref, beaucoup de débats. N'hésitez pas à composer le 32-16. Mais tout de suite, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Ah, vous le savez, les GG ne savent rien à l'heure actuelle. Et pourtant, elles vont devoir débattre dans quelques instants. Débattre sur l'émotion. Réagir sur le coup, sans préparation. C'est l'objet de cette séquence. Le guet-apens du jour. Vous n'allez pas être plus avancé dans quelques instants. C'est ça.
Jour. Nuit. Jour. Nuit.
Alors pourquoi je vous passe un extrait des visiteurs? Nous n'allons pas.
Dark, hein.
Nous n'allons pas débattre de jacouille, évidemment. Non, il faut s'attarder sur le jour-nuit, le blanc, le noir, la vision manichéenne. C'est un débat philosophique que je vous propose ce matin. Oh oui, vous aurez 2 heures et une copie double. Inspiré par une déclaration de Luis Enrique, le coach du PSG cette semaine, est un peu passé inaperçu. Nous n'allons pas débattre du Paris Saint-Germain, mais du rôle des médias. Là-dedans, au détour d'une question sur Bradley Barcola, parfois critiqué la saison dernière, le coach du PSG a répondu ceci.
Se protège si no hubiera periodistas, sería la repera.
Il serait protégé s'il n'y avait pas de journalistes. Ce serait la meilleure chose du monde. Parce qu'en ce moment, tout le monde parle de Bradley Barcola. Mais vous souvenez-vous du match contre Newcastle, ici à la maison? Vous en souvenez-vous? Qu'il ne pouvait pas jouer, qu'il était inexpérimenté, qu'il n'était pas prêt pour la Ligue des Champions. Il n'était pas nul quand il a manqué 2 ou 3 occasions. Il n'est pas le meilleur joueur du monde aujourd'hui. La presse a toujours quelque chose à dire. La presse veut du blanc ou du noir, du top ou du désastre. La vie n'est pas comme ça. Il y a beaucoup de nuances de gris au fil des saisons.
Notre débat dans le débat caché aujourd'hui. La presse est-elle trop dans l'excès? Oui ou non? Vous qui avez évidemment des liens avec la presse, toi Christophe qui est journaliste. Oui ou non, Pascal Duprat?
Non.
Marion Bartoli?
Non.
Sarah Pitkowski?
Moi j'aurais plutôt tendance à dire oui.
Plutôt oui, ok. Christophe Cessieux?
Oui, moi aussi, y a pas beaucoup de nuances. Un jour tu es en haut, le lendemain tu es en bas.
Actuel qui
mais
veut
c'est,
ça.
C'est la société qui
mais
veut
oui,
ça, quoi. C'est pas
exactement.
Que la presse.
Et pas, elle est pas excessive, elle est racoleur. T'as besoin de faire. De dire, elle est racoleur, c'est-à-dire que ton titre doit faire. Le titre que tu vas donner à ton article va faire être celui qui va te faire acheter un journal ou va te faire être celui qui va cliquer sur un article. Et parfois, quand tu lis l'article, le titre ne correspond pas du tout à ce qui a été dit
oui,
à l'intérieur.
Mais ça t'empêche pas de faire ton propre opinion.
Parce qu'elle a besoin de vendre. Parce qu'elle a besoin de vendre. Il faut qu'elle.
Elle va aller chercher la petite phrase qui va être le titre. Et quand tu lis l'article. Eh ben, parfois, même souvent.
Oui, mais les personnes souvent vont faire leur propre opinion. Ils n'ont pas besoin de lire un article de presse pour forcément.
Ah, je suis là. Ah,
d'accord. Alors, vas-y, Pascal.
Bien souvent, les gens,
ça peut influencer.
Les gens, en fait, comment dire. Quand ils découvrent un article, ils prennent ça comme argent comptant. Souvent, ça vaut l'information vaut la vérité. Donc ça, c'est pas toujours le cas malgré tout. Moi, cela dit, en prenant ma maigre expérience, au début, en fait, le fait de venir avec vous, de côtoyer des journalistes, d'être consultant modestement, ça m'a fait avoir une autre vision de votre métier. Je me suis rendu compte que les journalistes, ils travaillaient vraiment. Ils préparaient leur sujet. Avant, j'avais l'impression qu'ils m'en voulaient. Alors certains m'en veulent, mais m'en voudront tout le temps. Mais quelquefois, quand on a dit des matchs de l'équipe que je coachais, que ce match était nul. Au début, je pensais que bon, ils exagèrent, ils sont sur moi. Mais en fait, ils avaient juste raison. Ils décrivaient ce qu'ils avaient vu, à savoir un match d'une piètre qualité de l'équipe que je coachais. Donc, les journalistes, pour la plupart, sont droits, sont honnêtes. Moi, ce qui quelquefois m'ennuie, c'est que on cible quelqu'un et on tire dessus à boulet rouge sans arrêt, sans arrêter, de manière définitive, comme s'il n'avait pas le droit à la rédemption. Ça m'ennuie un peu.
Et moi, pour avoir été longtemps attaché de presse, donc mon métier était d'expliquer à quelqu'un comment il allait retrouver ses propos dans la presse, comment on allait traiter une information. Et en fait, la personne qui pense que la presse va traiter de son information, elle pense qu'elle va être tout le temps positive parce qu'elle a été invitée à tel endroit, parce qu'elle a fait tel voyage. Et l'information, elle doit être alimentée, elle doit être travaillée, elle doit être argumentée. Et j'ai souvent des personnes qui me disent « Mais alors pourquoi il dit ça ?»
Et débattu,
absolument. Après, il y a aussi des articles où on dit, mais en fait, pourquoi ils ont mis ce titre-là? Ça correspond pas à ce que j'ai dit.
C'est pour faire cliquer les gens.
Exactement.
Pour faire réagir, avoir des vues, bien sûr.
Exactement. Donc, il y a un côté un peu racoleur.
Au-delà du faire des vues, parce qu'on fait de la presse écrite et on peut s'attaquer à nous aussi,
mais,
les copains.
Mais bien sûr,
c'est très difficile de s'attaquer à vous. Parce que le sportif aura deux minutes, sa punchline va faire 2 minutes.
Mais
les journalistes, vous avez des émissions en continu, donc vous nous fracassez à chaque émission.
Mais ce qui a évolué, c'est qu'avant tu n'avais pas le droit de réponse parce que le seul média à qui tu t'adressais, c'était aux journalistes en face de toi. Aujourd'hui, tu es ton propre média. Donc en fait, tu peux réhabiliter une information qui est vraie ou qui est fausse. Et puis la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, t'as plus besoin des médias pour faire passer ton propre message.
Et d'ailleurs, Luis Enrique, lui, est très mauvais en conférence de presse. Enfin, toujours très très offensif vis-à-vis de la presse. Et il a son propre réseau. Et là, il est paraît-il très bon.
En spontanéité, il est pris à son propre piège.
Mais comme l'a dit Pascal, je suis sûr que l'entraîneur du PSG devrait venir faire. Et ça devrait être obligatoire. D'ailleurs, venir faire un stage dans une entreprise de presse pour savoir un peu comment ça se passe, la presse a besoin, comment ça fonctionne, et voir un peu des deux côtés
Je pense qu'il y a plusieurs éléments. La première, c'est qu'il y a une presse effectivement écrite. Alors, je pense pas que la presse française soit la plus vindicative. Hein. Quand on regarde les presses étrangères, il y a des presses étrangères qui sont beaucoup plus agressives dans n'importe quel sport d'ailleurs. Il y a effectivement des journalistes qui ont leur propre opinion, qui vont aimer, pas aimer un certain joueur, aimer, pas aimer un certain entraîneur. On peut même élargir ce débat au-delà du foot, parce que c'est dans plein d'autres sports aussi.
Bien sûr.
Mais après, la vérité, de toute façon, elle sera toujours tournée vers le résultat sportif. Et entre guillemets, le meilleur moyen de répondre à une critique évoquée par un journaliste qui peut avoir quand même aussi le droit d'avoir son propre opinion, même si en tant qu'entraîneur ou en tant que joueur, on n'est pas d'accord avec cette opinion, ça restera toujours et encore le résultat du terrain. Après, je pense qu'il faut faire aussi une différence avec des consultants qui ont été d'anciens sportifs eux-mêmes et qui peuvent eux aussi avoir des opinions qui parfois peuvent être négatives envers un joueur, un système de jeu, un entraîneur, etc. Et je pense que ça peut être aussi une critique constructive qui peut faire évoluer dans la manière dont on pense lorsqu'on est en poste. Tu parlais, Pascal, toi, de tes matchs ou même d'autres entraîneurs qui peuvent se dire, tiens, finalement, quand j'écoute Thierry Henry, qui était consultant à l'époque sur une télé, me parler du match, la façon dont il voit le jeu, quand j'écoute d'autres anciens très grands joueurs qui sont consultants aujourd'hui, j'ai peut-être aussi envie de débattre et d'écouter ce qu'ils disent. Donc pour moi, d'être aussi vindicatif dans la manière dont est Luis Enrique, qui a toujours eu ses conférences de presse extrêmement agressives en disant entre guillemets, vous êtes journaliste, vous êtes des cons, vous y comprenez rien à rien, il n'y a que moi qui suis au-dessus, de toute façon mon système de jeu vous comprendrez jamais parce que vous êtes de toute façon tellement débile que vous n'arriverez jamais à comprendre comment je joue. Je trouve cette manière agressive de communiquer pas forcément extrêmement constructive et en tout cas pas allant dans son sens. Je sais pas ce que t'en penses, Sarah. Effectivement, tu as été attaché de presse, mais je pense pas que les personnes qui entendent ça vont se dire, vont avoir une plus d'empathie ou vont se dire, bah tiens, c'est Luis Enrique qui a raison, parce que le nombre de conférences de presse où lui s'est foutu ouvertement de la gueule des journalistes en ne voulant pas évoquer le système de jeu, en ne répondant pas en question, en se disant, bah moi, de toute façon, je suis tellement un génie du foot que vous êtes entre guillemets de la basse besogne et que vous y comprenez rien. Je suis pas sûr que ça soit non plus extrêmement en sa faveur. Mais donc on pourrait y aller dans les deux sens. Je pense vraiment pas que la presse française soit la plus agressive.
Je vous pose cette question parce que parfois on se remet en question et moi-même par exemple dans cette émission je me demande et l'objectif c'est de vous faire débattre vous les anciens sportifs donc de vous opposer mais est-ce qu'en vous opposant on n'est pas que toujours dans la même forme, le blanc, le noir, vous voyez.
On porte au nu quelqu'un ou une équipe qui a un bon résultat ou de bons résultats d'un seul coup. Regarde ce qu'on a fait tout à l'heure avec Marseille,
exactement.
Par exemple.
Oui, mais bah, c'est parce qu'on est dans la culture de l'instant.
Tout le monde est en train de se dire Marseille est devenu le véritable rival du PSG. Mais évidemment qu'il est trop tôt pour le dire. Mais voilà, on a besoin de débattre, on a besoin de faire ce genre de truc, on a besoin de rêver et d'espérer que ce genre de choses arrivent pour ceux qui ne sont pas supporters du PSG. Et évidemment, si Marseille se met à perdre 2-3 matchs de suite, on dira mais cette équipe, elle est bonne pour la Ligue 2.
Non, mais ça, c'est pour les journalistes.
On parle de toi, toujours les trucs.
Oui, parce que nous, les honnêtes, il faut dire ça comme ça. Souvent, je te charrie sur l'âge, mais est-ce que tu as la sensation par rapport au moment où tu construisais des émissions, je dirais, il y a 15 ou 20 ans, est-ce que c'était différent?
Non, mais non, c'est la même chose.
Parce qu'on dit souvent, c'est la société, on a besoin d'être soit d'accord, soit pas d'accord, tu vois.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui dans n'importe quel domaine t'es obligé d'être en opposition. Il y a plus beaucoup de nuances, mais je suis pas convaincu que ce soit la faute de la presse qui a mis ça. Mais aujourd'hui tu vas sur les réseaux sociaux, c'est ou noir ou blanc, mais encore plus que dans les médias, c'est complètement dingue.
Le traitement de l'information, le traitement de l'information,
c'est ça la différence.
Le traitement de l'information a évolué. Avant, on retranscrivait ce qu'on voyait. Donc on retranscrivait un événement sportif, une prestation, une performance. Aujourd'hui, on débat. Donc à partir du moment où on parle de débat,
sans avoir connaissance de l'information ou juste une connaissance.
On peut débattre sans avoir vu un match. On est bien d'accord. Mais la presse au début, quand les premières compétitions sportives étaient en live, c'était quoi? C'était de la boxe à la radio. C'est ça les débuts du sport en live. Et qu'est-ce qu'on faisait? Ben on commentait un combat de boxe, les coups, mais on n'extrapolait pas. Mais au fur et à mesure que les médias se sont développés et qu'on avait plus de sources d'informations et des canaux, on est venu à débattre. Et on est sur une radio qui débat du matin au soir. Donc forcément, tu as du blanc, tu as du noir. Mais moi, je trouve qu'il y a pas mal de gris aussi. Enfin, je veux dire, on a aussi du gris. On change, on fait changer les avis.
Mais je vais vous dire sincèrement ce que je pense. Et parfois, vous savez, quand on est toujours en opposition, et vous l'êtes, et c'est ce que je vous demande d'être, en tout cas.
On est payé pour ça.
Non, mais pas vous travestir, c'est-à-dire de penser vraiment de vous emparer du sujet. Et évidemment, on est là aussi pour divertir et pour faire le show, mais de vous emparer d'un sujet, et puis au travers de vos expériences, de pouvoir le délivrer. C'est ça l'objectif de cette émission. Et souvent, il y a des émissions avec, et pourquoi pas, et j'en ai animé avec des journalistes à chaque fois. Des éditorialistes autour de la table. Là, cette émission, elle a cette force, en tout cas selon moi, c'est qu'elle est avec d'anciens sportifs. Donc vous connaissez votre sujet, vous savez bien les ressorts qui amènent un champion à soit être génial, soit à un moment donné dégringoler. J'ai fait cette. J'ai oublié ce que je voulais dire à la fin. Mais c'était très intéressant.
C'est pas grave, c'était passionnant.
Bon, on va devoir y aller, mais je vais peut-être le retrouver. Non, oui, je me pose la question moi-même parce que pendant les Jeux Olympiques, même moi, j'ai eu une bouffée d'air frais. C'est-à-dire qu'on n'était plus dans le débat, on n'était plus dans est-ce que lui il a bien fait de faire ça, pas bien fait. Ouais. On était juste dans l'accompagnement d'une compétition. Et je trouve que pendant 2 semaines, pendant 3 semaines,
ça faisait bien. Hein.
Ça faisait beaucoup.
Parce que là, il a repris.
Mais c'est le débat est constructif, le débat apporte justement un intérêt.
Et puis parce qu'il est partisan aussi là.
C'est
pas
parce qu'on va débattre de La Rochelle contre Toulouse que ce soir on a envie, comme le dit c'est justement Pascal, de voir comment ça va se dérouler, parce que justement on présente le match de manière différente. Donc après il y a les supporters purs et durs qui, eux, quoi qu'il arrive, vont regarder. Mais les gens qui peut-être se disent, bah tiens, dimanche soir, je sais pas trop quoi faire, c'est parce qu'on aura débattu de tout ce qu'il y a autour de ce match, qu'il va y avoir un intérêt supplémentaire autour de ce match. Donc c'est tout l'écosystème sportif qui a besoin de ce genre de débat pour qu'il y ait un écosystème sportif qui fonctionne dans sa globalité.
Ok, bon bah voilà, je voulais vous proposer ce débat caché.
Bravo,
voilà, ce
matin.
Et pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, on pouvait dire notre patriotisme sans avoir aucune mesure dedans parce qu'on soutient une équipe de France et là c'est plus un club.
Je crois que les journalistes, vous êtes devenus supporters pendant les Jeux Olympiques.
Qui ne l'est pas entre les deux, tout le monde.
C'est là la distinction.
On est toujours supporters.
C'est là la distinction.
Absolument.
Allez, après, si l'équipe de France était plantée, je pense que les couteaux auraient été sortis. Hein,
ouais. Vous les tiens, évidemment. Bah allez, 11h46.
Ils sont mal aiguisés, les miens. Mais
c'est à vous de jouer. Non, ton matériel est toujours performant. 11h46,
on s'en fout. On va vous laisser là.
Pour la suite des grandes gueules du sport. C'est à vous de jouer, les auditeurs.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h49 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Pascal Duprat, Marion Bartoli, Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux. Avant de vous entendre, chers auditeurs, on accueille aussi, il connaît bien cette émission, c'est Stephen Brun. Salut Stephen.
Salut JC, salut les GG.
Car tous les dimanches, vous en avez pris l'habitude, ce sera le troisième numéro là, à 13h, de Stephen Brun. C'est quoi le programme de Stephen Brun?
Écoute, un peu d'OM, un peu de PSG. Eric Roy a dit que ce PSG-là était plus fort que la saison dernière, donc on se posera vraiment la question avec les auditeurs si ce PSG-là est meilleur vraiment que la saison dernière sans Kylian Mbappé. On fera ça avec Brendan Chardonnay, qui a affronté le Paris Saint-Germain, le capitaine de Brest qui était au Parc des Princes.
Ouh là là, il y a la Ligue des Champions en plus qui commence.
Exactement, on évoquera la Ligue des Champions pour Brest face à Sturmgrass, à Guingamp.
C'est là où il faut prendre les 3 points.
Et c'est là où il faut prendre les 3 points. Ensuite, on parlera de l'OM. Est-il trop tôt pour parler du titre et on accueillera Jocelyn Gourvennec qui vient de donner un peu son regard sur le début de la Ligue 1. Jocelyn Gourvennec, ancien entraîneur de Lille. Voilà, et puis on finira l'émission.
Il en a fait des clubs.
Et puis on finira par Roman Dico, la championne olympique par équipe de judo, médaillée de bronze, qui a vécu les JO, les Paralympiques, a fait la paradia. Donc on viendra évoquer tout ça avec nous, mon cher Jean-Christophe. L'émission pour les auditeurs, donc venez poser des questions à Gourvennec, venez poser des questions à Brendan Chardonnay, venez poser des questions à Roman Dico. Moi, évitez de me poser des questions parce que je ne saurais pas quoi répondre. Mais voilà, appelez.
Mais venez dire bonjour.
Bonjour, exactement.
Et nous dire ce que vous mangez au brunch. Et
tout à fait.
Et c'est important. T'as vu, il y a Pascal là.
C'est la première fois que je le vois dans l'émission, Pascal.
Ouais, il a quitté cette émission.
Il a affûté, Pascal. Hein.
Ouais, je suis affûté. Ouais. Ouais, je m'entretiens.
Ça fait
61 ans.
Ça fait du crossfit, Pascal. Hein. Pascal, oui. Ça fait du crossfit. Ouais, ouais.
Merci beaucoup, Stephen. On se retrouve à 13h pour Stephen Brunch. Juste un cadeau. Vous rappelez un cadeau à vous faire gagner. Tu parlais du Paris Saint-Germain, le PSG qui affrontera Gérone au Parc des Princes pour le premier match de cette Ligue des Champions. L'expérience RMC, c'est ce que nous vous proposons. L'avant-match, le match, l'après-match ici à RMC et puis au Parc des Princes évidemment durant la rencontre. Vous envoyez dès maintenant PSG au 732-16, PSG au 732-16. Vous avez 5 minutes. Allez tout de suite, c'est à vous de jouer les auditeurs.
RMC,
les grandes gueules du sport et vous.
Patrick nous appelle au 32-16. Il veut en découdre avec une GG. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Patrick, tu veux affronter qui ce matin?
Bonjour. Non, moi c'est Monsieur Duprat. Je voulais parler un petit peu à Monsieur Duprat.
Très bien.
Je vous salue tous, hein, entre parenthèses. Je suis heureux de vous entendre. Et par contre, j'ai pas trop aimé ce que dit Monsieur Duprat.
Alors on va réécouter. C'est sur le PSG-OM, la rivalité, tout ça. Est-ce que la rivalité est née? On écoute ce que disait, c'était tout à l'heure, c'était il y a maintenant 2h30. Et puis après, Patrick va pouvoir y aller.
Les Marseillais me semblent avoir davantage d'emprise sur le jeu qu'ils ne l'avaient les dernières saisons. Donc ça, c'est déjà bon signe. Ils ont une attaque où chacun de ses membres peut marquer. Ça aussi, c'est nouveau. Ce qui me fait dire aussi que cette rivalité, elle peut s'exercer tout au long de la saison, c'est que le Paris Saint-Germain n'a plus de stars. Le Paris Saint-Germain a rajeuni son effectif. Et le Paris Saint-Germain, au contraire de Marseille, va devoir se coltiner la nouvelle formule de la Ligue. Exactement. Des Champions. Donc l'accumulation des matchs. Attention.
Attention, ça n'a pas plu à Patrick. Patrick, Pascal t'écoute.
Oui, attention à lui aussi, parce que de plus, c'est facile de dire ça. Moi, je vais vous expliquer. On critiquait toujours avant Paris d'avoir que des stars, comme dit Monsieur Duprat, etc. On a un coach qui est fantastique, qui se laisse la direction, on ne l'emmerde pas. Il fait des jeunes. On est une très belle petite équipe, sans Mbappé, sans qui que ce soit, sans Neymar. On joue, on a marqué déjà plus de buts sans ces stars-là. Et tout le monde peut marquer chez nous. Et la différence que je dis à Monsieur Duprat, c'est qu'on a des blessés comme tout le monde. Mais il a dit une chose, il n'a pas dit une chose juste au niveau de Ramos. Ramos, c'est pas fin d'année. Il commence à recourir à partir de la semaine prochaine, déjà. Et deuxièmement, il y a Itinia qui n'est pas encore là, etc. Mais ça va revenir. Je veux simplement lui expliquer que nous, on n'est pas anti-parisien gratuitement. On est bon, on n'est pas, on défend son équipe. On n'est pas toujours, mais vous, Monsieur Duprat aussi, vous avez fait de belles erreurs dans certaines de vos équipes. J'étais là.
Ah, moi, c'est ma fête. Mon anniversaire, c'est le 19 septembre. C'est
voilà. Justement, la réponse.
La parade du supporter par excellence, là.
Je suis ni pour, ni contre le PSG. Je suis ni en faveur de Marseille que du PSG. J'adore ces deux clubs. Chaque fois, je les défends quand ils sont en Europe. Marseille, ça fait longtemps qu'ils n'y sont plus. Donc voilà, je suis un supporter du football et je me réjouis de voir ces deux équipes, si d'aventure c'était le cas, lutter jusqu'à la fin de saison pour le titre de champion. Voilà ce que j'ai dit. Vous m'inquiétez un peu, monsieur. Hein, donc vous m'avez glacé le sang parce que j'ai l'impression
qu'il n'était pas en France pendant les Jeux Olympiques parce que là, il est revenu, tu sais, dans l'antagonisme entre les deux trucs.
Voilà, je pense que ça a du bon pour notre sport. Ce que je voulais dire, c'est que ça a du bon pour notre sport si Paris Saint-Germain ne domine pas la compétition.
Là, je suis content qu'on ait une équipe maintenant qui n'ait plus de grand de tralala, etc. Je suis complètement d'accord avec vous sur ce domaine-là, monsieur.
C'était sur les stars. Hein. Tu disais, sans stars, peut-être que le PSG va avoir un peu plus de mal. Sans Mbappé.
40 buts en une année, je le rappelle, Mbappé, c'est quand même pas neutre.
Monsieur Drouet, sans les stars, on en a marqué plus que sans Mbappé, monsieur. Hein, tout le monde peut marquer, comme dit Enrique. Hein, on peut marquer.
Vous comprenez l'espagnol, vous? Parce que
je comprends, Patrick, mais moi, je fais monsieur loyal. Ce que je dirais juste, si j'entre dans ce débat, c'est plutôt de dire, Patrick, que en fait, on ne sait pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est alléchant en début de saison, mais je vous rappelle que l'année dernière, il était très alléchant. Qu'il y a deux ans, avec Neymar et Messi, le 7-0 à Lille, c'était très alléchant. Et qu'au final, ça a été un peu compliqué. Donc aujourd'hui, c'est difficile de savoir si, sans ces stars qui ont beaucoup été critiquées au PSG, c'est encore possible de jouer sur tous les tableaux. En tout cas, c'est une question qu'on peut se poser. Mais merci Patrick d'être venu débattre dans cette émission. Vraiment, je m'excuse auprès de Luc et Jean-Marie qui nous appelaient également, qui voulaient vous faire votre fête aussi, comme à Pascal, c'était pour toi Sarah. Mais malheureusement, on est un peu pris par le temps. Promis, la prochaine fois, je prendrai plus de temps pour vous les auditeurs. Je suis vraiment désolé. Et merci à vous de votre fidélité. Merci beaucoup les GG, Marion, Pascal, Sarah,
bon Christophe. Dimanche.
Passez un très bon dimanche. On se retrouve demain.
À
ce soir pour Bartoli Time à 19h, évidemment, avec Benoît Boutron. Et on se retrouve la semaine prochaine à samedi. Ce sera à 9h, samedi prochain. Tout de suite, les paris RMC autour de Lens-Lyon. On vous attend nombreux. On va vous donner les meilleures cotes. À tout de suite sur RMC.